RFI, il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec vous, Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire, Irma, qui est toujours la une de ce journal d'Haïti et des Amériques. On reviendra largement sur l'ouragan et les dégâts qu'il laisse derrière lui. Irma remonte actuellement le long de la côte ouest de la Floride. Rétrogradée en catégorie 1, l'ouragan a frappé la grande ville de Tampa, une zone particulièrement à risque, mais où le niveau de la mer est monté moins que ce qui était redouté. Stéphanie Schuller nous donnera les dernières informations dont nous disposons. Irma, qui est passée la semaine dernière au large d'Haïti, au nord, mais l'œil de l'ouragan est passé plus loin que prévu. Le bilan reste limité. Sur l'île, c'est donc le soulagement, nous dira notre correspondante Amélie Baron. Mais si les dégâts sont limités, la question de la prévention en matière d'intempéries est une nouvelle fois posée. Également au sommaire, les primaires de l'opposition vénézuélienne en vue des élections régionales prévues en octobre et la visite de Benjamin Netanyahou en Argentine, début d'une tournée en Amérique latine, la première pour un premier ministre israélien. Stéphanie Schuller y reviendra dans sa revue de presse. Et puis on s'intéressera au système carcéral pour mineurs aux États-Unis à travers le travail de la photojournaliste Isadora Kosowski. Il est exposé en ce moment à Perpignan, dans le sud de la France, dans le cadre du festival Visa pour l'image. Irma continue donc sa course et remonte la côte ouest de la Floride, état où les intempéries ont déjà fait au moins 3 morts, état où l'état de catastrophe naturelle a été déclaré par le président Donald Trump. Après l'archipel des Keys, après Miami, c'est désormais Tampa qui est concerné. Tampa qui a été frappé par un ouragan rétrogradé en catégorie 1. Il a donc baissé en intensité. Stéphanie Schuller, vous êtes en studio avec nous pour la revue de presse. Stéphanie, qu'apprend-on de la situation sur place?
Eh bien, après une journée d'angoisse d'incertitude, la baie de Tampa se réveille ce matin avec les traces laissées par l'ouragan Irma. Des rues inondées, des arbres arrachés, des coupures d'électricité qui touchent plus de 2/3 de la population. Mais pour l'instant, tout semble indiquer que la ville a échappé à l'historique fureur des éléments telle qu'elle avait été initialement annoncée, écrit ce matin le Tampa Bay Times. Et même si une montée du niveau de la mer est toujours prévue par les météorologues, elle ne sera plus que de 1,20 m probablement au lieu de 5 mètres.
Et si la ville a été à éviter le pire, c'est parce qu'Irma a encore une fois déjoué les prévisions et passe finalement plus à l'est.
Et c'est la raison pour laquelle, Pauline, la très dangereuse montée des eaux n'est désormais plus attendue sur la côte ouest de la Floride, mais menace à nouveau la côte est au niveau de la ville de Daytona, au nord de d'Orlando, a annoncé il y a une heure le National Hurricane Center.
Et partout en Floride, donc, les habitants se réveillent après une nuit difficile.
Selon les dernières informations publiées par le site de la chaîne ABC, Irma a fait 5 morts en Floride. À Naplesville, sur la côte ouest, où des vents ont soufflé hier après-midi à plus de 200 km/h, le maire estime que le pire a été évité, même si le rétablissement de l'électricité pourrait prendre plusieurs jours, rapporte le Naples Daily News. Près de 6 millions de foyers en Floride se retrouvent actuellement sans courant. À Miami, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations après des pillages. Les autorités de Miami Beach interdisent aux habitants le retour chez eux jusqu'à demain. Mais la zone qui concentre vraiment toutes les inquiétudes est celle des Keys, Pauline. Les communications avec certains îlots de ce petit archipel ont été coupées. Les hélicoptères doivent y amener dès que possible des équipes de sauvetage qui vont inspecter chaque maison à la recherche de survivants, rapporte le Miami Herald. Les ponts menant aux Keys restent pour l'instant fermés à la circulation.
Et avant de s'abattre sur la Floride, Stéphanie, Cuba a été très durement touchée par Irma.
Oui, les images des vagues de 9 mètres qui s'écrasent sur le Malecón, le célèbre front de mer de la Havane, sont impressionnantes, toutes comme celles montrant des habitants de la capitale cubaine qui nagent dans les rues inondées. Mais les dégâts sont particulièrement catastrophiques dans le centre de l'île où Irma a touché terre samedi, alors qu'elle était encore un ouragan de catégorie 5. La province de Ciego de Ávila fait partie des zones les plus affectées, constate Cuba Debate, qui publie de nombreuses photos sur sa page web. On y voit des maisons entièrement détruites, des arbres arrachés, des hôtels de cette zone très touristique gravement endommagés. La première priorité des autorités régionales est de réparer les routes afin que l'aide puisse arriver dans les zones sinistrées, explique le journal. Dans la province de Camagüey, l'ouragan a durement frappé l'industrie alimentaire et le secteur de la pêche, rapporte la radio locale. Dans la province de Las Tunas, 80% des cultures agricoles ont été détruites, dont 600 hectares de plantations de bananes, estime pour sa part Periódico 26.
Et avant les États-Unis et Cuba, dans la nuit de jeudi à vendredi, Irma est passée au nord d'Haïti, où l'on rejoint notre correspondante Amélie Baron. Amélie, l'ouragan est finalement passé plus loin des côtes que prévu et le bilan humain est donc limité.
Et c'est un soulagement généralisé car vu la vulnérabilité du pays aux intempéries, sans ce léger changement de trajectoire dans la journée de jeudi, la situation aurait été bien plus dramatique. Une personne est encore portée disparue. Il s'agit d'un conducteur de moto qui a voulu traverser une rivière en crue jeudi dans le département du Plateau Central. Les autorités ont aussi signalé que deux personnes avaient été blessées suite à la chute d'un cocotier sur leur maison dans le département du Nord.
Un bilan humain moins important que redouté donc, mais le pays n'a pas été complètement épargné, même si les forces des vents et des pluies n'ont rien été comparables à ce qu'ont connu Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La côte nord d'Haïti a enregistré quelques dégâts matériels.
Effectivement, 16 communes ont été partiellement inondées et c'est surtout dans la ville de Fort-Liberté que la situation a été la plus critique. Dans la zone appelée Malfetti, environ 350 maisons ont été inondées. L'eau d'une rivière a commencé à envahir les habitations au milieu de la nuit. Plus de 3000 personnes se sont rapidement retrouvées avec de l'eau jusqu'à la taille et elles se sont donc réfugiées dans des abris. Au total, plus de 10 000 Haïtiens ont été recensés dans ces abris provisoires ouverts dans les 6 départements affectés. Ils y ont reçu de l'aide distribuée par les autorités et les organisations internationales. Aujourd'hui, la majorité des habitants ont regagné leur logement, pas ou sinon peu endommagé par les intempéries. Donc quasiment tous les abris ont été fermés. Celui de la zone justement de Malfetti, qui se trouve être une école publique, devrait être fermé aujourd'hui, selon les dernières informations transmises par les équipes d'urgence.
Amélie, si ces dégâts ont beau être limités, ils révèlent tout de même les lacunes du pays en matière de prévention des risques.
Oui, et il faut s'interroger sur ce qui a permis à des pluies certes fortes, mais en rien équivalentes à celles d'un ouragan, de causer autant d'inondations, l'absence de planification urbaine qui aboutit à voir des maisons construites en zone inondable est un facteur aggravant. Il y a aussi le manque ou sinon même l'absence totale de nettoyage par les autorités des réseaux de canalisation, d'évacuation des eaux, car ces canaux sont bouchés par des alluvions et des déchets. Et pour savoir pourquoi un nombre important de familles ont vu leur toit de tôle endommagé, notamment sur l'île de la Tortue, il faut regarder du côté du code de construction qui n'est pas respecté. Haïti est et restera sur la trajectoire potentielle de cyclones et ses lacunes et manques pourront la prochaine fois provoquer la mort de nombre de citoyens. Aujourd'hui, certains peuvent se dire qu'en comparaison avec ce qui s'est passé sur les îles des Petites Antilles, sur Cuba ou en Floride, Haïti a été épargné, mais c'est oublier que ces dégâts limités sont lourds de conséquences pour les victimes. Ces familles haïtiennes n'ont pas d'assurance et ces pertes représentent un coût énorme face à leurs maigres revenus. Que les fruits aient été arrachés des arbres et rendus impropres à toute consommation, cela peut paraître risible, mais c'est un nouveau coup dur pour les agriculteurs, notamment du Nord-Ouest, qui avaient déjà tout perdu il n'y a pas même un an, avec le passage cette fois ravageur de l'ouragan Matthew.
Merci Amélie Baron pour ces derniers détails sur la situation en Haïti. On vient donc de le voir, les difficultés sont liées dans le pays à un manque de prévention des catastrophes naturelles. Un constat partagé par Jérôme Kouachi, il est responsable des opérations d'urgence à Action contre la faim, une organisation qui s'est mobilisée pour venir en aide aux Haïtiens sinistrés.
C'est une politique qu'il faut développer sur deux leviers principaux, sur le système d'alerte et d'information précoce. Plus on aura les informations en amont, plus on sera capable d'informer les populations pour qu'ils puissent se sécuriser. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des abris en dur pour pouvoir sécuriser un maximum de personnes, pour pouvoir éviter les dégâts humains prioritairement et puis après matériel ensuite.
Parce qu'en fait, on dit aux gens de se mettre à l'abri, la question est juste où?
Il faut qu'ils puissent avoir des possibilités d'abri. On travaille avec le gouvernement pour développer ces systèmes-là. Il y a quand même les écoles, il peut y avoir les églises qui sont généralement utilisées. De plus en plus, il faudra une politique d'urbanisation avec des constructions en dur, sismiques et cycloniques, parce que Haïti, c'est aussi une zone sismique importante. Donc il faut travailler sur ces deux mécanismes-là.
Jérôme Kouachi d'Action contre la faim.
Le journal de l'Outre-mer.
Si Haïti a échappé au pire, Irma a eu des effets dévastateurs sur les Antilles. L'ouragan a fait au moins 10 morts sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les dégâts matériels sont considérables. Ils sont évalués à 1,2 milliard d'euros. Irma fait donc toujours la une du journal d'Outre-mer Première. Bonjour Tessa Groman.
Bonjour Pauline.
Tessa, à Saint-Martin, la situation commence à être maîtrisée malgré tout.
Oui, la centrale EDF fonctionne, l'électricité est peu à peu rétablie. L'usine de dessalement d'eau reprend du service aujourd'hui. Par ailleurs, le plus gros avion de transport de l'armée de l'air a décollé hier matin de Martinique, direction Saint-Martin. À son bord, une compagnie d'infanterie de marine, des gendarmes et des hommes du GIGN. Mais pas uniquement, il y avait aussi du fret et du matériel. Le contre-amiral Jean Grignola, ou commandant des forces armées aux Antilles-Guyane, précise la mission de cette expédition.
La mission de cet avion sera de assurer une partie du pont aérien entre la Martinique, la Guadeloupe et les îles Saint-Martin. Nous avons, et vous allez le voir, déchargé un hélicoptère de manœuvre Puma avec tout son échelon technique et environ 10 tonnes de fret qui serviront dans le cadre du soutien aux populations de Saint-Martin.
Propos recueillis par Pierre-Yves Honoré, Martinique Première. D'un point de vue de la sécurité, les vols dans les magasins semblent avoir cessé et la population est désormais plus rassurée pour sortir. Le témoignage de Nathalie Bizenia qui vit dans la ville de Marigot à Saint-Martin.
Les pillages ont cessé. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien dans les boutiques, donc il n'y a plus rien à piller. On sent la présence des militaires, des forces armées, des policiers, des gendarmes. Effectivement, nous, on recommence à sortir un petit peu, alors qu'on ne sortait plus du tout. On avait très peur de sortir. Là, ça y est, on est attentif, mais on ressort. On sent vraiment qu'il y a que ça s'est calmé. On ne voit plus les bandes qu'on voyait traîner la semaine dernière. Je pense qu'on a tous besoin de retrouver un semblant de vie normale, entre guillemets, la vie qu'on avait avant ici, même si le spectacle et le décor est désolant.
600 personnes ont quitté l'île hier grâce à un pont aérien mis en place entre Saint-Martin et la Guadeloupe. Mais depuis quelques jours, la polémique enfle autour des priorités mises en place dans les rapatriements d'urgence. Sur les réseaux sociaux, des commentaires dénoncent un tri injustifié qui privilégie notamment les touristes. Dimanche, le député guadeloupéen Max Mathiasin a fait part de son sentiment sur l'antenne de Guadeloupe Première. Il répond à Christelle Théophile.
Sachant que Saint-Martin et Saint-Barthélemy vivent à 90%, voire 100% du tourisme et d'aide de l'État, il est normal que s'il y a des ressortissants de pays étrangers, qu'on puisse les rapatrier, surtout s'ils sont venus par un voyage organisé. Cela me semble normal. Il ne s'agissait pas d'évacuer la population ou des membres de la population de Saint-Martin ou de Saint-Barth. Il s'agissait de mettre en sécurité un certain nombre de touristes qui ont quitté leur pays et qui doivent pouvoir être protégés.
Et les vols commerciaux devraient reprendre aujourd'hui entre Saint-Martin et la Guadeloupe. Et puis je rappelle enfin qu'un couvre-feu est imposé aux habitants de l'île côté français jusqu'à mercredi. Interdiction de circuler la nuit entre 19h et 7h du matin.
Merci Tessa Groman, bonne journée.
Bonne journée à vous.
Stéphanie Schuller, je reviens vers vous pour la suite de notre revue de presse. L'opposition vénézuélienne a organisé hier des primaires en vue des élections des gouverneurs qui doivent se tenir en octobre.
Oui, dans 19 États, les électeurs étaient appelés à choisir les noms de ceux qui vont représenter les candidatures uniques de la coalition de l'opposition, la MOUD. Pour 13 d'entre eux, les résultats ont été annoncés dans la nuit. Les 6 autres doivent l'être ce lundi, écrit El Nacional. Selon l'un des représentants de l'opposition, le député Ramos Ayoub, cité par El Univ, la participation à ces primaires a largement dépassé les prévisions les plus optimistes, ce qui fait dire au quotidien La Verdad que ces scrutins ont été le symbole de, je cite, la démocratie, la pluralité et de l'unité.
Benjamin Netanyahou entame aujourd'hui la première tournée d'un chef de gouvernement israélien en Amérique latine. Première escale, l'Argentine.
Et ce choix n'a rien d'étonnant, estime le journal Cronista, car la visite du premier ministre israélien ne fait que confirmer les liens historiques entre l'État hébreu et l'Argentine, pays où vit la plus grande communauté juive d'Amérique latine et la 7e plus importante du monde. Benjamin Netanyahou arrive ce midi à Buenos Aires et se rendra d'abord à l'ambassade d'Israël, qui a été frappée en 1992 par un attentat faisant 29 morts et 220 blessés, rapporte Clarine. Il sera reçu demain par le président argentin Mauricio Macri.
La visite de Benjamin Netanyahou en Argentine réveille donc des souvenirs douloureux.
Oui, depuis un an et demi, des citoyens d'Israël et de l'Argentine réclament au ministère israélien de la Défense la publication de tous les documents témoignant des relations entre l'État Israël et la junte militaire argentine. Argentine durant les années 1976 à 1983, rappelle Marina Dossé qui poursuit. Israël est accusé d'avoir été un fournisseur très important d'armes et d'entraînement militaire pour la junte. Nous sommes aujourd'hui peinés et déçus par la décision des autorités israéliennes qui ont rejeté notre demande, arguant que la publication de ces documents historiques mettrait en danger la sécurité d'Israël. Et le journal de conclure, nous demandons la publication des documents parce que nous croyons que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours mieux que l'ambiguïté.
Merci Stéphanie Schuller. En bref, également dans l'actualité américaine, en ce lundi 11 septembre, les États-Unis commémorent les attentats qui ont notamment frappé les tours jumelles à New York il y a 16 ans. À cette occasion, le président Donald Trump prononcera un discours au Pentagone. Plus de 180 personnes y avaient été tuées. Au total, les attaques ont fait près de 3000 victimes. RFI, il est 6h25 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, 14h25 à Paris et Perpignan. Perpignan, dans le sud-ouest de la France, qui accueille en ce moment et pour toute cette semaine encore le festival Visa pour l'image, un rendez-vous qui chaque année met à l'honneur le photojournalisme. Au programme, concours, projections et expositions, on s'intéresse aujourd'hui à celle consacrée à Isadora Kosowski. Cette jeune photojournaliste américaine a suivi pendant 5 ans 3 adolescents. Tous sont passés par le centre de détention d'Albuquerque en version originale. Son reportage présenté à Perpignan dénonce le système carcéral pour mineurs aux États-Unis. Anna Piekarek a rencontré Isadora Kosowski.
Vini n'avait que 13 ans lorsqu'il a été pris en photo par Isadora Kosowski pour la première fois. Enfermé pendant près de 2 mois dans le centre de détention d'Albuquerque, on le voit fondre en larmes lors de la visite de sa mère.
Vini est dans les bras de sa mère. C'est visite de chaque semaine le vendredi soir. Et il pleure et il dit « j'ai envie de rentrer, aide-moi ». Vini était détenu parce qu'il a poignardé l'homme qui agressait sa mère. Et la police n'a pas cru l'histoire. C'est au même moment que j'ai rencontré Vini. Il m'a parlé de l'amour qu'il avait pour son frère. Donc je me suis dit, pour travailler sur l'histoire de Vini, il faut que je suive le frère aussi.
Et c'est dans une prison qu'Isadora Kosowski a rencontré le grand frère de Vini.
David a été 8 fois dans le centre de détention à Albuquerque pour des raisons de vente de drogue. J'avais juste une journée à passer dans ce centre parce que c'est pas facile de faire un reportage dans des milieux carcérales parce qu'il y a du monde, il y a les gens qui surveillent, donc il faut vraiment attendre les moments où personne vous regarde. Je trouve que pour avoir l'empathie pour ces sujets, il faut vraiment aller à profondeur avec l'histoire. Donc je voulais voir le côté carcéral, le côté familial, pour que les spectateurs ont une expérience authentique de l'histoire.
Le troisième personnage du photoreportage est une fille. Elle s'est retrouvée au centre de détention pour mineurs à 16 ans.
Alicia s'est trouvée dans ce centre de détention juvénile. Elle a eu un conflit avec la police, mais elle ne se souvient pas de ça parce qu'elle était sous l'influence de drogue.
Vini, David et Alicia sont aujourd'hui de jeunes adultes. Ils ont déjà leurs propres enfants. Malgré la prison et les autres traumatismes subis dans l'adolescence, ils essaient d'être heureux. Isadora Kosowski, elle, continue à s'intéresser à eux.
Vini a sa fille et sa copine. Cette famille vit toujours à Albuquerque. Et Vini travaille comme homme d'entretien en ce moment. Alicia, elle est retournée à l'école parce qu'elle n'allait plus à partir de l'âge de 14 ans. Sa mère était en prison, il y avait beaucoup de violence à la maison. Elle travaille aussi comme assistante aux personnes du troisième âge. Et David fait des va-et-vient en tôle, mais en ce moment il n'est plus incarcéré.
Aux États-Unis, 60 000 mineurs sont actuellement incarcérés dans des centres de détention. Pour la plupart, ils ont été élevés dans un environnement familial marqué par la drogue, la pauvreté et la délinquance.
Reportage d'Anna Piekarek. C'est la fin de votre journal d'Haïti et des Amériques. Merci de l'avoir suivi et merci à Jonathan Brady qui était aux manettes.
Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet.
Avec Franck Pavlov, son roman La nuit des enfants qui dansent nous emmène au cœur de l'Europe centrale, à la frontière austro-hongroise. Alors qu'affluent les migrants, les plus anciens restent traumatisés par le joug soviétique et la chape de plomb communiste, tandis que la jeunesse s'évade par la musique et la danse.
Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
Tout à l'heure, à partir de 13h10 TU.
RFI.